Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais vous apporter une étude parce que j'entends de plus en plus l'Internet et dans les messages chrétiens, dans les revues chrétiennes, on parle beaucoup du retour de Jésus qui est proche et c'est vrai, il va venir pour enlever son épouse. Mais il nous faut comprendre une chose capitale. Je veux vous enseigner cela aujourd'hui parce que je me sens pressé de le faire. Être au moins une petite voix dans ce cirque, ce zoo infernal dans lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle avec des milliers d'avis, tous différents les uns des autres. Vous savez, depuis la mort des apôtres, il y a eu ce qu'on appelle une apostasie. Alors le mot apostasie, c'est un mot grec qui n'apparaît en fait que deux fois en tant que mot dans le Nouveau Testament. Il apparaît en tant que verbe, quand il s'agit du verbe grec aphistemi, qui peut se traduire par « se détourner ». Et ce verbe peut aussi signifier « chuter »,« faire défection »,« se retirer » ou « se détourner de quelque chose à laquelle on adhérait auparavant ». Alors, l'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens, de Thessaloniciens 2-3, en disant que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, apostasier, ça signifie donc se couper de la relation salvatrice qu'on a avec Jésus ou abandonner l'union vitale qu'on a avec lui. Et voilà, donc l'apostasie, c'est se détourner, c'est abandonner, c'est grave. Et c'est, déjà, les apôtres le prédisaient, disaient que ça allait arriver. Depuis donc qu'ils sont décédés, eh bien l'apostasie s'est installée. Maintenant, on est en plein dedans et il y a des croyances, des pratiques inventées par les hommes qui se sont substituées aux vraies pratiques, aux vraies croyances. Par exemple, au sujet du salut, c'est quand même la croyance principale, le plan du salut enseigné par Jésus. Il faut faire attention de ne pas se laisser embobiner par des gens qui nous enseignent n'importe quoi. Dans Éphésiens 2, 19-21, il est dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire des concitoyens, des saints, membres de la famille de Dieu. Vous voyez, ça c'est ce que Paul écrivait aux chrétiens qui étaient à Éphèse, qui étaient encore dans la vérité. Nous n'y sommes plus, enfin quand je dis nous, le christianisme en majorité n'est plus dans la vérité, et il ne se comporte pas comme des membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, hein, ce que Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est-à-dire que sur cette pierre tout a été construit, et puis c'est les apôtres et les prophètes. On n'a pas le droit de venir raconter des histoires qui sont des soi-disant révélations. C'est de l'apostasie, ça. Alors il continue, il dit « C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné, c'est-à-dire son Église, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Alors voilà donc ce que Paul disait aux Éphésiens à son époque. Et malheureusement, vous voyez que le Sauveur Jésus-Christ qui a organisé son Église, eh bien, très peu de temps après, elle a été très, très désorganisée. Il a enseigné les principes, les ordonnances, le salut, tout ça pendant son ministère terrestre. Et puis, tout ça, c'était consigné dans ce que nous appelons les Écritures. Regardez, par exemple, Éphésiens 4, 11, 14. Il est dit, c'est lui qui a donné, donc Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Il a fait pour former les saints, donc les chrétiens, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Oui, mais voilà, tant que nous restons avec les véritables ministères qui sont ordonnés par Dieu, et tel qu'il est écrit là, tant que c'est Jésus qui ordonne, tant que c'est et qui confirme ses ministères, alors je mets à suivre n'importe qui, et les gens sont ballottés à l'heure actuelle par tout vent de doctrine, à cause de la ruse de certaines personnes et leur habileté dans des manœuvres d'égarement. C'est très grave. Et pour ne pas être ballotté et emporté par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, je reprends les mots justes, eh bien c'est Jésus qui a tout organisé au début pour que son Église soit comme il la voulait. Mais après la mort des apôtres, les hommes rusés et habiles dans leurs manœuvres d'égarement ont trompé le peuple. Voilà, ils ont trompé le peuple, et quand on lit Actes 2, 37, 47, on s'aperçoit très vite que maintenant c'est plus du tout comme ça. Hein. Alors vous voyez, Actes 2, 37 à 47, il est dit, c'est l'apôtre Pierre qui prêche, et puis il y a une foule qui est là devant lui, et il y a quelques personnes qui disent, mais frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Alors Pierre leur dit, changez d'attitude ou repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et il continue par beaucoup d'autres paroles, il rend des témoignages en les encourageant et disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» C'était une génération perverse, et Pierre leur dit de s'en sauver, de se sauver de là. Donc il y a quelque chose à faire. C'est vrai qu'on est sauvé par Jésus, mais aujourd'hui on est aussi dans une génération perverse, et on doit se sauver de cette génération perverse. Mais comment? Bien, premièrement, en se repentant, ensuite en étant baptisé, c'est-à-dire immergé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, ensuite en recevant le Saint-Esprit. Au verset 41, il dit « Ceux qui acceptèrent sa parole, donc la parole de Pierre, furent donc baptisés, donc immergés dans l'eau, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que vous persévérez dans l'enseignement des apôtres, ou dans l'enseignement de votre évêque, de vos papes, ou de votre pasteur, à la limite illettré, je ne sais pas moi. En tout cas, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Est-ce que vous persévérez dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, ou est-ce que vous êtes isolé dans votre coin, déçu par les églises, ne voulant plus les fréquenter parce que vous avez été déçu? C'est très possible que vous ayez été déçu. Nous aussi, on était déçus. Et en 74, le Seigneur nous a montré comment il fallait faire. Eh bien, il fallait créer une communauté, comme lui l'avait fait au départ. Vous comprenez? Pas recommencer à faire une église dans un coin avec des personnes qui viennent le dimanche. Ça, c'est de nouveau recommencer comme la fausse église. Donc, persévérer dans la communion fraternelle, c'est-à-dire dans la vie communautaire. Ensuite, y persévérer dans la fraction du pain et dans les prières. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris la Sainte Cène? Hein, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Il se faisait beaucoup de prodiges, de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Et chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, ils louaient Dieu, et ils avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et voilà comment Jésus a institué son Église, et voilà comment l'apôtre Pierre a posé, n'est-ce pas, le premier jour, le jour de la Pentecôte, il a posé les vraies paroles pour créer la vraie Église. Alors on voit comment les apôtres ont conduit donc les gens à entrer dans l'Église, vous avez bien vu. Et puis ensuite, si vous regardez aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce qui existait à l'époque. Hein. Quand on lit 1 Corinthiens 12, je prends 1 Corinthiens 12 maintenant, au verset 28, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Ah bon? C'est pas des papes? Non, c'est des apôtres. C'est-à-dire des envoyés de Dieu. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues, etc., etc. Mais quand on lit ça, on voit que la hiérarchie voulue par Jésus dans son Église, ça n'a plus cours du tout. Ça n'est plus du tout comme ça. Parce que vous voyez, non, ça n'existe plus. Maintenant, il faut savoir que l'apostasie a été prophétisée, elle a été annoncée. C'est pas que Dieu s'est trompé ou que Jésus a raté son coup. Pas du tout. Jésus savait que des fourbes allaient s'introduire dans son Église et que la majorité les suivrait. On trouve ça déjà même dans l'Ancien Testament, dans Amos 8, 11, 12. Et il est dit, les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront, alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ne la trouveront pas. Ben non, ils trouvent rien, parce qu'il n'y a rien. Il y a des bons prédicateurs, des bons parleurs, des gens qui vous font des vidéos sur YouTube, puis qui vous racontent n'importe quoi. Et bon, par-dedans, il y a des bonnes choses, c'est vrai, mais enfin, bon, voilà, les gens sont toujours assoiffés, affamés, parce que ils ne sont pas satisfaits dans leur vie chrétienne. Les prophètes du Nouveau Testament ont lancé aussi cette mise en garde contre l'apostasie au sein de l'Église. On trouve ça dans Galates 1, je crois. Non. Oui, c'est ça, Galates. Non, c'est Galates. Oui, c'est Galates 1, versets 6 et 9. Et c'est l'apôtre qui parle et qui dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Voilà, déjà à l'époque, les Galates, ces pauvres gens, ils passaient à un autre évangile. Ils ne croyaient déjà plus dans le simple évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut, par la foi. Ils passaient déjà à d'autres trucs. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, il n'y a pas d'autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. C'était qui ces gens? C'est des juifs, déjà. C'était des juifs qui disaient, il faut que, n'est-ce pas, les non-juifs se fassent circoncis, ils voulaient remettre de nouveau les gens sous la loi, comme aujourd'hui la plupart des chrétiens juifs, pas tous heureusement, mais enfin ceux, en tout cas ceux que je connais, ils essayent de remettre les gens sous des lois complètement idiotes. Faut plus avoir de photos, faut plus, enfin bon, des âneries. Parce que c'est des images, etc., etc. Bon. Il faut plus, enfin bon. C'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Vous vous rendez compte? Qu'il soit maudit. Alors tous ces prédicateurs qui viennent vous dire que il faut faire des œuvres pour pouvoir être sauvé, sinon vous perdez votre salut, c'est des gens maudits. Ne les suivez pas. C'est un faux évangile. Nous l'avons déjà dit, et Paul le répète, il dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. C'est pas moi qui suis en train de maudire ces gens, c'est l'apôtre Paul. Il savait ce qu'il disait. Hein. Il savait ce qu'il disait. C'est terrible. Et les gens sont là. Ah oui, mais il faut que je fasse des neuvaines, il faut que je fasse des jeûnes, il faut que j'aille brûler des bougies, il faut que j'aille prier la Vierge Marie, il faut... Non, tout ça, ça vous sauvera pas, c'est pas vrai, ça n'est que Jésus seul qui vous sauve, et vous le croyez, et une fois que vous le croyez, eh bien, vous mettez votre confiance donc en lui, et vous êtes sauvés. Alors, Paul avertissait l'Église, leur disant, de ne pas se laisser troubler par des gens qui ont des révélations ou des paroles, n'est-ce pas, qui sont contraires à ce que lui enseignait. Voilà, on peut encore lire ça dans. Il en parle beaucoup, hein, dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. Je crois que c'est ça, 2 Thessaloniciens 2, 1, 4. Voilà. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, vous voyez déjà à l'époque, il y avait des flippés qui disaient que Jésus allait revenir bientôt, ou il y en a même qui disaient qu'il était déjà revenu. Il est taré, hein, déjà à l'époque. Et donc il dit, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, ou par une parole, ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. Donc, voilà, ça c'est la vérité, c'est ce que Paul dit, et moi je crois ce qu'il dit. Et il ne faut pas vous laisser troubler par des révélations. Hein, vous voyez, l'apostasie, aujourd'hui, elle est tellement bien installée dans l'Église, dans les Églises, qu'elle est devenue la norme. Maintenant, on pense que c'est normal, mais non, c'est pas normal, ce qu'ils enseignent n'est pas juste. Pendant plus de 1700 ans, il y a eu comme un silence entre les cieux et la terre. Dieu a laissé faire. Ils ont voulu prendre en main l'Église, ils ont voulu la diriger. Et maintenant, ben, il y a une toute petite minorité de chrétiens vrais et puis une immense majorité de chrétiens qui s'illusionnent, qui aiment Jésus, mais qui sont dans l'illusion. C'est fou. Et ce n'est que dernièrement que. Il y a à peine 2 siècles que Dieu commence à rétablir toute chose. Selon Actes 3, 21, je ne sais pas, je vous ai déjà parlé de Actes 3, 21. Je veux bien vous le relire encore une fois, Actes 3, 21, si je le trouve assez rapidement, dans cette Bible dont je n'ai pas encore l'habitude vraiment. Actes 3, 21, il est dit qu'il enverra le Messie qui nous est destiné, donc Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous les saints prophètes. Donc il disait aux gens, Jésus a été accueilli au ciel, vous l'avez tué, vous l'avez crucifié, mais maintenant il est ressuscité, il est monté au ciel, il est à la droite du Père, et il ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ce rétablissement dont tous les prophètes ont parlé. Mais aujourd'hui, qui c'est qui parle du rétablissement de toutes choses? Dans quelle église vous entendez parler de ça? Ils disent on a le plein évangile, on sait tout, on a tout. Voilà. Mon Dieu. Alors, bon, il y a eu la réforme, mais la réforme, ce n'était pas encore le rétablissement de toute chose qui était annoncé par les prophètes. C'était, si vous voulez, le début, un balbutiement. Mais pendant le rétablissement de toute chose, eh bien, alors que ce rétablissement était en train d'être fait, eh bien, il y a des gens qui désertent l'Église rétablie. Ça s'appelle des schismes, n'est-ce pas, dû à des dissensions internes. Et cela s'est produit chez nous, comme ça s'est produit dans l'Église primitive. C'est normal, les choses se répètent, c'est toujours pareil. Les choses se répètent. Premièrement, dans l'Église primitive, comme aujourd'hui, ben, il y a des gens qui ont commencé à corrompre les doctrines simples, comme celle du salut par la foi uniquement. Maintenant, vous avez même des gens qui vous disent que non, vous pouvez vous réincarner pour. C'est infernal. C'est infernal. Dans l'Église primitive, ce sont des Juifs qui ont commencé, hein, à mettre le boxon là-dedans. Et se disaient chrétiens. Oh, vous avez l'air beaucoup plus chrétien, certainement, que la plupart des chrétiens. légalistes comme c'est pas possible, ils ont commencé à vouloir mettre la loi de Moïse dans l'Église en disant il faut que les hommes soient circoncis. Heureusement, Paul leur a tenu tête et on a tous ces écrits dans la Bible. Et puis, certains ont commencé à vouloir introduire dans l'Église des connaissances pseudo-philosophiques. Et voilà, toutes sortes de d'âneries qui venaient de Babylone, d'Égypte, d'Assyrie, que sais-je. Maintenant, ça vient du Moyen-Orient et de l'Orient, la réincarnation. Alors ça, c'est le comble, ça, c'est la meilleure de l'année, la réincarnation. Certains ont dit que tout ce que Jésus avait enseigné s'était terminé en 70, vous savez, lors de la destruction de Jérusalem. Et que tout ce qui est dans Matthieu chapitre 24, 25, tout ça, c'est terminé, on ne doit plus attendre, n'est-ce pas, autre chose, c'est fini, c'est terminé. Ça, c'est ce qu'on appelle les modalistes. Mais ils existent toujours, ils sont encore là, ils sont encore là. C'est effarant. Alors, puis, il y en a d'autres qui ont renoncé aux ordonnances sacrées qui ont été données par Dieu, et puis se sont permis d'introduire des altérations capitales. Dans les ordonnances du Seigneur, comme par exemple la scène avec du pain et du vin, ils ont mis ça sous forme d'une hostie, c'était beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Et puis le baptême pour les adultes, ils l'ont remplacé avec le baptême pour les enfants, et puis ensuite le baptême pour les morts, ils ont traficoté tout ça, ils en ont fait le purgatoire, et puis la vie communautaire, eh bien c'est plus que des moines et des nonnes avec des cimetières d'enfants à côté. Et puis, vous allez dire que je suis mauvaise langue, hein, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et puis, le lavage des pieds, ben, quand c'est que vous avez lavé les pieds des chrétiens dans l'église? Hein? C'est quelque chose que Jésus dit, vous êtes heureux si seulement vous le faites. Et on ne fait pas ce que Jésus dit, on ne fait pas. Par contre, on fait des tas d'âneries que Jésus ne dit pas dans les églises. Le scellement des familles, pourquoi est-ce qu'on ne le fait plus, enfin bon. Et puis évidemment, alors ils ont aussi instauré des changements inautorisés dans le gouvernement de l'Église, nommant un successeur à Pierre, n'est-ce pas? Voilà. C'est venu, et puis c'est toujours là. Franchement, je crois que si Jésus était revenu sur la terre au début du 5e siècle déjà de notre ère, et je doute qu'il aurait reconnu son Église, qui prétendait descendre de celle qu'il avait établie. Mais elle s'était déjà tellement égarée. Déjà au 5e siècle, c'était n'importe quoi. Le christianisme était devenu, et il est toujours majoritairement, un amalgame de croyances, de pratiques et de doctrines juives, de philosophies grecques, romaines, égyptiennes, babyloniennes et de beaucoup d'autres religions païennes. C'est un mélange, c'est une bouillabaisse indigeste. Et l'autorité divine n'est plus du tout présente et n'est toujours pas présente, elle n'est plus présente du tout dans ce qu'on appelle l'Église chrétienne. L'autorité. Ainsi dit le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est plus rien. Parce que l'évangile n'est plus disponible aujourd'hui aux habitants de la terre, il a été changé. Ça n'est plus l'évangile de Jésus-Christ. Le salut n'est plus par la foi, mais par les œuvres. Les bébés sont baptisés. Alors que Jésus disait, repentez-vous à des adultes, puis soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, on baptise les enfants. On les baptise même pas, on les asperge. Le mot baptême signifie immersion. J'ai vu l'autre jour sur Internet un curé qui trempe les bébés dans l'eau. Bon. Tout ça, c'est des hérésies. En fait, maintenant, on en est au point de faire des messes pour faire sortir les morts du purgatoire. Purgatoire qui n'existe pas, qui était inventé par des gens malicieux. Et aujourd'hui encore, eh bien, j'ai reçu d'un pasteur pentecôtiste, j'ai reçu une vidéo où il y a une pauvre dame qui prétend être morte 3 fois et avoir visité l'enfer et puis elle a vu des âmes tourmentées en enfer. Mais c'est impossible. La Bible nous enseigne qu'il n'y a encore personne en enfer. Ce sera seulement après le jugement Après le jugement dernier sur le grand trône blanc, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. Pour le moment, il n'y a personne. Ils connaissent rien, ils ont des visions, et ils vous balancent des visions. Alors, aussi bien chez les pentecôtistes que chez les catholiques, que chez partout, n'importe où. Ils connaissent plus la parole de Dieu, et ils avalent tout. Oh, la sœur, elle a eu une vision, elle a eu un songe. C'est faux! C'est faux! La terre est dans les ténèbres parce que l'Église est dans les ténèbres. Et ceux qui cherchent à vivre par la foi sont regardés comme des gens qui font partie d'une secte ou qui sont intégristes. Voilà, Michel, t'es un intégriste. Mes frères et sœurs, moi je suis profondément attristé de ce que si peu de gens veulent entrer dans le rétablissement de toutes choses. Ah, parmi nos frères et sœurs évangéliques, beaucoup espèrent que Jésus va revenir bientôt, mais ils ne seront pas enlevés. Ils seront pas enlevés. Ils sont pas enlevables. Parce que Jésus n'enlèvera que son épouse fidèle et non pas des chrétiens religieux corrompus ou qui se sont laissés tromper, qui sont dans une espèce de... qui veulent pas entendre autre chose parce qu'ils ont peur de perdre leurs amis, etc. Ils croient avoir la foi, ces gens. Mais quelle foi? Quelle foi? La foi en quoi? Alors aujourd'hui, là, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, je lisais une soi-disant révélation d'un juif, là, chrétien. Alors cette révélation erronée dit que 66,666% des gens seront des boucs pour aller droit en enfer. Et ils sont bons pour l'enfer, déjà maintenant. Parce qu'il n'y a pas de jugement dernier, c'est maintenant le jugement. Voilà. Il y a eu une révélation. Et que 33,33% sont des brebis du Seigneur. Mais quelle idiotie! Attendez, vous allez voir que c'est encore plus idiot que vous pensez. Il n'y aura pas 33,33% des habitants de la terre qui seront enlevés. C'est une hérésie. Il y en aura beaucoup moins. Beaucoup moins. Vous savez comment cette révélation est venue à ce pauvre garçon? Parce qu'il a vu dans Matthieu 25, il est écrit au verset 33, qu'il mettra ses brebis à sa droite. Ah, alors il dit, si c'est au verset 33, ça veut dire qu'il y aura 33,33% de brebis du Seigneur. Voilà les révélations de Dieu. Révélation. Mais ce pauvre garçon, il ne sait même pas que c'est qu'il y a peu de siècles en arrière, il y a des théologiens qui se sont amusés à mettre des chapitres et des versets dans la Bible. C'est quand la Bible était au début, dans les textes anciens, il n'y a pas de versets, il n'y a pas de chapitres. Et chapitre 25, verset 33, ça n'existait pas. Ah oui, mais le Seigneur a tout bien dirigé pour que ça se trouve au verset 33. Non, mais arrêtez, des vierges folles, mais on est cerné par les vierges folles. Franchement, on est cerné. Ce pauvre garçon dit que il n'y aura pas de jugement au ciel parce que le jugement il a déjà lieu maintenant. Mais Jésus dit que ceux qui croient en lui ne seront pas jugés. Il le dit ou il ne le dit pas? Il le dit, c'est dans Jean chapitre 3, verset 5, je sais plus, verset, je sais plus, c'est dans Jean chapitre 3 en tout cas, que ceux qui croient en lui, verset 18 je crois, ils ne seront pas jugés. Qu'est-ce que Dieu a à juger? Il sait très bien, il connaît les siens. Nous ne serons pas au jugement, nous autres, les vérités, les véritables chrétiens. C'est les autres qui seront au jugement. C'est pas maintenant qu'ils sont jugés. Pour le moment, Dieu regarde tout le monde au travers du voile du sang de Jésus-Christ. Et un jour, il va lever le voile et il va juger. Oui. Aïe, 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 aïe. Il y aura beaucoup, beaucoup moins de personnes enlevées. L'enlèvement de l'épouse passera totalement inaperçu. Il y aura peut-être trois lignes d'un nouvel observateur. Et encore pas en première page. Alors, ne vous laissez plus tromper, revenez à la simple vérité de l'évangile par grâce. Le salut par grâce, c'est un cadeau de Dieu qui va, il va pas vous l'enlever si vous avez fait des bêtises, il vous aime, vous pouvez revenir à lui, vous repentir, et voilà. Je vais vous dire que le salut signifie qu'on est sauvé de la mort physique et de la mort spirituelle. Alors, c'est vrai que tous les hommes seront sauvés de la mort physique par la grâce de Dieu. Tous. par l'intermédiaire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. J'explique. C'est-à-dire que tous seront sauvés dans le sens que tous seront sauvés du séjour des morts pour se présenter ressuscités devant Dieu pour être jugés. Toute personne peut également être sauvée de la mort spirituelle par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Cette foi, elle se manifeste par une vie d'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Évangile et de service au Christ, pas d'obéissance à votre religion corrompue. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, écoutez bien, le plan du salut est accessible gratuitement à tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ça ne veut pas dire que tous les hommes et toutes les femmes recevront la même récompense. Quiconque veut venir peut venir prendre des eaux de la vie gratuitement. Mais il y a une mise en garde. Quiconque ne veut pas venir, celui-là n'est pas forcé de venir. Mais au dernier jour, il lui sera rendu selon ses actes. Voyez, au dernier jour. Le salut est gratuit dans le sens que il est offert. Il est offert par la grâce de Dieu, par l'intermédiaire de l'expiation de Jésus-Christ pour tous ceux qui le reçoivent. Mais il n'est pas gratuit dans le sens où il est donné à tous sans égard. À ceux qui le reçoivent gratuitement et qui obéissent de croire la parole de Dieu, pour ça, pour eux, c'est gratuit, mais ceux qui reçoivent l'évangile de Jésus-Christ, ceux qui reçoivent le salut, eh bien, ils choisissent de croire toutes les paroles de Dieu et pas d'autres trucs. Ceux qui croient dans le Seigneur Jésus, ils choisissent de conformer la vie à la parole de Dieu, à ce qui est dans la Bible et non pas à ce qui est dans d'autres trucs. Alors, repentez-vous. Repens-toi. Ne suis pas les apostats qui, comme les chrétiens juifs du début, cherchaient à remettre les enfants de Dieu sous la loi. Repentez-vous. Et faites ce que Jésus et les apôtres enseignent et rejetez le reste. Rejetez-le. Abandonnez tout ça. Laissez tomber tout ça. C'est faux. Ça vous conduit à la perdition. Mais maintenant, c'est vous qui voyez. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de m'avoir donné la force de prêcher ce message qui est difficile. Parce que je sais que c'est difficile pour moi de le prêcher, mais je sais que c'est difficile aussi pour les gens de l'entendre. J'aimerais tellement dire des choses agréables, gentilles, merveilleuses, bleu ciel avec des petites fleurs, de la poésie, des machins. Mais c'est pas à ça que tu m'as appelé. Tu m'as appelé à rétablir la vérité, à dire la vérité. Eh bien, je dis la vérité. Encore aujourd'hui, je te prie que mes frères et sœurs prennent cela au sérieux. Merci Jésus. Amen. Au revoir. Dieu vous garde.